Radio Barc, notre troisième avec Marie Batte. Donc je rappelle que vous êtes, Marie Batte, maire de Bages d'Aude. Je précise bien, Bages dans l'Aude. Vous êtes une des vice-présidentes du Grand Narbonne, chargée de la culture. Alors si vous êtes là à cette date particulièrement, c'est parce que ce week-end à Narbonne se déroule, je crois qu'on peut dire, l'événement phare de la culture narbonnaise hein, depuis quelques années, le Salon du Livre. Alors curieusement d'ailleurs, Marie Batte, la culture ne fait pas habituellement partie des compétences des agglomérations, mais au Grand Narbonne, elle joue un rôle très important, de grosses responsabilités.
En fait, c'est vrai que la culture n'est pas une compétence prioritaire des agglomérations, mais il se trouve que depuis 2003, au Grand Narbonne, nous avons eu tous les équipements conservatoires, écoles d'art plastique, médiathèque et après Amphoralis et le théâtre aussi. Pas directement, mais avec une participation forte dans la gestion.
Financière,
donc. Ce qui fait que, en ayant la gestion des équipements, on assure aussi le paiement du personnel, le fonctionnement, et on assure aussi, d'une certaine façon, à travers les directions, on assure aussi la programmation.
Voilà. Ayant le contenant, il vous faut vous occuper du contenu.
Tout à fait. Logique. Et il se trouve que dans cette dynamique-là, nous avons aussi mis en place deux manifestations phares, la Tempora, qui est ce festival itinérant d'art vivant sur une trentaine de villages chaque année sur les 37 que comporte l'agglomération, et le Salon du Livre. Alors le Salon du Livre, enfin, moi j'y tiens particulièrement parce que c'est une manifestation, d'abord elle est unique dans le département, c'est une manifestation qui commence à avoir un rayonnement régional et au-delà, et puis c'est surtout une manifestation où on a conservé, je dirais, à la fois le travail de fond. C'est la cinquième édition qui a cette forme. Nous avons un travail de fond sur le jeudi et le vendredi avec les scolaires. Et moi, j'y tiens énormément parce que même si ce n'est pas la partie visible, c'est quand même une partie de travail qui est amenée tout au long de l'année avec des ouvrages qui sont travaillés. C'est 4000 jeunes qui sont concernés et ils rencontrent pendant ces deux journées les auteurs. Et là, je pense que c'est vraiment des rencontres tout à fait intéressantes et constructives pour la génération qui arrive.
Voilà, c'est ça. Là, vous préparez, si je puis dire, déjà les salons prochains.
Mais là, on prépare surtout
avec ses publics
avertis pour aller vers la littérature. Après, je pense que ce qui est important aussi, et c'est pour ça que j'ai rappelé tous les équipements, c'est ce travail de synergie que nous avons entre les équipements. Ce qui fait que ce salon est une réussite, c'est que les personnes de la médiathèque travaillent avec les personnes du conservatoire, avec les personnes de l'école d'art plastique, autour de cet événement. Et cette synergie-là fait que nos tables rondes, nos expositions, nos rencontres, les lectures fonctionnent et ont un public.
Les lieux et les personnels sont impliqués dans ce salon.
Tout à fait. Et ce qui m'avait marqué à un moment donné, j'ai en mémoire une réflexion que m'avait fait Didier Denenx, qui était sur le salon et qui était surpris par la qualité des échanges entre les lecteurs et les auteurs qui étaient sur le salon. Et il m'avait dit, en fait, pour avoir cette ambiance-là, il faut avoir eu un travail en amont. Et le travail en amont, c'est tout le travail qu'on a avec la médiathèque et avec tous les équipements culturels. Je pense que c'est pour ça qu'on a cette réussite. Alors, qu'est-ce que je peux dire? La nouveauté cette année, peut-être?
Oui, bien sûr.
Cette année, nous avons élargi les partenariats. Nous avons élargi au Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc, le CIVL, qui accueille aussi un spectacle, Marcus Malt, les harmoniques. Nous avons également...
Dans l'église, si je puis dire, des Jacobins.
Voilà. Nous avons également élargi le partenariat avec le FILAF, le Festival international du livre d'art et du film de Perpignan, qui nous permet d'accueillir Camille Lorenz et Catherine Millet, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui, je dois le dire, sont deux écrivains dont le travail d'écriture est lié à l'art et aux artistes, et des belles plumes. au-delà de...
Oui, justement, le choix, comment se fait-il? Parce que ça, c'est un travail d'une année pour retenir des candidats, si je puis dire.
Alors, le choix se fait par le service culturel. Donc, je dois d'abord les remercier, parce que le service culturel du Grand Narbonne, ce sont 4 personnes. Patrice Boulesteng, le directeur du service, Marine Savreux, Ghislaine Duverdier et Sandrine Durand. Et Marine Savreux, dès aujourd'hui... commence à préparer le salon du livre de l'an prochain.
C'est vraiment la cheville, la cheville ouvrière, on peut dire.
Et elle prend des contacts. Je pourrais dire les consignes des élus et de la majorité des élus, c'est surtout la diversité des propositions. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est que la personne qui se déplace et vient au salon du livre arrive avec un centre d'intérêt, un auteur qu'elle a envie de rencontrer. Et puis, au fil du parcours, la curiosité aidant, il y a d'autres possibilités de rencontres, d'autres connaissances. Et je crois que c'est toujours un peu comme ça que ça fonctionne, la culture, avec cette curiosité, quand on est attiré quelque part.
Alors, culture, parfois, c'est antinomique avec économie. Or, là, ça n'est pas le cas du tout. Il y a une partie retombée économique très importante que vous évaluez, plus ou moins, je crois, d'ailleurs.
Alors, sur... la culture et l'antinomie avec l'économie, je ne peux plus l'entendre.
Oui, c'est dommage, mais ça continue à perdurer.
Mais je pense que nous avons tous intérêt à comprendre que la culture, ce sont des emplois. Et c'est égal. Quand je parle des équipements, je dois avoir 120 emplois à peu près sur les équipements qui sont des emplois de la culture. Et en même temps, les retombées. Donc, sur le salon, on doit avoir 70 000 euros de retombées économiques sur le territoire directement identifiables.
Il y a les libraires qui sont impliqués, les libraires.
Il y a les libraires avec leur, la rentrée sur leur vente de livres. Il y a l'hébergement des auteurs, la restauration des auteurs. Et il y a, tout ce qu'on ne chiffre pas. C'est-à-dire les gens qui viennent et qui se restaurent sur place et qui consomment sur place. On avait quand même 18 000 visiteurs l'an passé. Oui, je voudrais terminer sur les partenariats parce que quand même, je ne voudrais pas oublier que nous avons comme
rendre à César ce qui lui appartient.
Ne pas oublier le troisième partenaire qui est Occitanie Livres et Lectures. Là, c'est ce matin la restitution des productions au théâtre, du travail des collégiens, des collégiennes du département avec des écrivains. Et la restitution se fait au Théâtre Seine-Nationale ce matin. Et effectivement, ce que vous avez dit, le salon a son importance pour le milieu professionnel, les éditeurs, les libraires. Une quinzaine d'éditeurs sont régionaux, TDO, Vanterral, Plume de Carotte, les éditions du Cabardès. Les libraires, il y a les librairies locales comme Libellis, comme BD et compagnie, comme Le Livre Voyageur. Et surtout, je sais que c'est souvent ce que l'on nous reproche, sur les 100 auteurs, 70 auteurs sont des auteurs régionaux. Région, pas Narbonnais, oui. Régionaux.
Alors Occitanie, disons maintenant.
Et aussi très locaux, Pauline Roland, Christian Pastre, Michel Tessère, que vous allez rencontrer, je crois, Jean-Pierre Grotti, Daniel Royot, il y a aussi des locaux.
Oui, d'ailleurs on invite les auditeurs à suivre d'un petit peu plus près tout cela, puisque Grand Sud FM sera en direct samedi matin, samedi après-midi et dimanche matin sur ce salon, avec justement rencontre avec un certain nombre de ces auteurs. Donc on le voit, Marie-Bat, un gros événement. Vous l'avez décrit, vous l'avez expliqué. Revenons quand même un peu plus rapidement peut-être, mais sur ce côté, la responsabilité culture dans ce Grand Narbonne, vous avez énuméré rapidement tous les établissements, mais ça fait du monde quand même. Il y a la médiathèque, je veux dire par là que c'est une grande partie des lieux, du personnel et des activités. À l'année, pas seulement pour le salon.
Tout à fait. Et ce que je voudrais surtout dire, c'est peut-être revenir un peu sur l'historique. C'est en fait depuis 2008, de 2008 à 2014, ce qui a été réalisé sur ces équipements, je dirais, c'est un peu une modernisation et une mise à niveau par rapport aux exigences actuelles, avec une implication plus grande des directeurs et un travail un petit peu de rayonnement de ces équipements. De 2014 à 2020, notre souci, c'est que ces équipements qui sont situés sur la ville centre apparaissent vraiment comme des équipements du Grand Narbonne, donc et un rayonnement sur l'ensemble du territoire. Et pour ça, nous avons quand même lancé le réseau de lecture publique avec la médiathèque. Là, c'est un investissement important. Il y a 15 communes qui sont rentrées dans ce réseau et en fait, toute personne du village ou de cette commune peut avoir accès aux mêmes services que ceux qui sont à la médiathèque.
Voilà, c'est l'agglomération.
C'est l'agglomération et c'est gratuit. Donc là, je trouve que c'est très, très important. Nous sommes à la dernière étape. Les choses se construisent. Nous sommes à l'étape de la construction de la navette qui fera circuler les livres. J'insiste là-dessus parce que le réseau de lecture publique, il ne faut pas le voir comme la médiathèque va diffuser sur toutes les autres médiathèques. Il y a des conventions et dans ces conventions,
c'est un échange.
Les communes doivent continuer à acquérir des livres. Les communes doivent également avoir un personnel qualifié qui fait un certain nombre d'heures. Voilà, je trouve que ça, c'est intéressant parce que ça fait faire des efforts à tout le monde.
C'est une sorte de fédération et non pas de centralisation, comme on l'évoquait tout à l'heure avec Paris et son centralisme. Voilà, alors ça, effectivement, c'est intéressant. Et alors, paradoxalement, si je puis dire, malgré cette grosse responsabilité culturelle, on a parfois l'impression que au sein du Grand Narbonne, ça craquelle un petit peu, il y a des grincements dedans, si on en croit la presse, notamment locale. Alors, Maribat, vous qui êtes vice-présidente de la culture, comment voyez-vous ce que vous lisez dans la presse et ce que vous vivez au quotidien ?
Je reste persuadée que faire travailler 37 communes ensemble avec une idée d'intercommunalité, ce n'est pas simple. Alors je pense que là aussi, on est dans une histoire. Il a fallu créer l'agglomération, élargir l'agglomération, donc absorber d'autres communes avec des négociations. Ce n'est pas une chose simple. Et là, sur ce mandat, nous sommes au travail sur les projets. On est plus d'emporter des projets réalisés, d'où forcément des tiraillements. Enfin, moi, ça me paraît logique. Après, le plus important, je suis toujours comme ça, moi, c'est ce qu'on arrive à faire. C'est les réalisations.
Voilà, c'est le verre à moitié plein, ou la bouteille à moitié pleine.
Oui, parce que, le principal obstacle dans cette affaire n'est pas un obstacle institutionnel, en fait, ou politique, c'est un obstacle culturel. Tant que les maires, en fait, ne prendront pas en compte la dimension intercommunautaire dans leur esprit et dans leur pratique, en fait, au quotidien, l'intercommunalité n'avancera jamais et ne sera que l'addition simplement d'intérêts faits communaux. Voilà, donc le gros travail, si je puis dire, c'est un travail qui touche effectivement à quelque chose de sensible et qui est certainement la partie la plus dure c'est-à-dire
c'est
la, pas,
voilà, la matière. C'est pas seulement les institutions, c'est les hommes au sens général, évidemment. Mais c'est ce que Maribat laissait entendre en disant, par exemple, au niveau des bibliothèques, il n'y a pas une volonté supérieure qui s'impose et qui redescend, c'est une sorte de fédération, de circuit. Je pense qu'il y a déjà une prise de conscience, en tout cas, à ce niveau-là.
Et en même temps...
Qui est en marche, si je puis dire.
Tout à fait. Donc, ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est tout ce qu'on est arrivé à avoir comme manifestation de ces équipements sur le territoire. On a quand même chaque année 115 manifestations à peu près, que ce soit de la médiathèque à travers des lectures théâtralisées, à travers des expositions itinérantes. Une proposition de la médiathèque est adressée à chaque commune et la commune commande là-dedans des manifestations pour son territoire. Donc il y a ça avec la médiathèque, il y a également avec le conservatoire les auditions d'élèves qui se tiennent dans des villages, les concerts et également tout ce qui a été fait vis-à-vis des scolaires, l'orchestre à l'école, les chams. Enfin, je crois que là, ce que l'on souhaitait vraiment, c'était ce rayonnement sur le territoire. L'école d'art plastique a des interventions en art plastique sur les écoles des communes de l'agglomération.
Oui, donc il y a quand même une intercommunalité.
Je veux dire, l'intercommunalité avec la culture, elle existe. Je crois que pour beaucoup de communes de petite taille, une grande partie de leur programmation culturelle à l'année viennent de l'agglo.
Donc il y a une véritable osmose quand même qui se met en place. Alors parmi les équipements, il y a un gros équipement qui est le théâtre. Et dont on sait qu'il a eu quelques difficultés financières, suivies d'une fermeture administrative, entre guillemets, de 6 mois. Où en est-on aujourd'hui avec ce théâtre dont tout à l'heure, Michel avait l'air de dire que la directrice laissait entendre que grâce à elle, tout irait bien. Revenons sur la réalité. Alors, le Grand Narbonne finance à hauteur de quasiment 1 million d'euros par an.
Le Grand Narbonne...
Mais n'a pas beaucoup voix au chapitre, c'est ça le problème.
Voilà, la gestion du théâtre, en fait, c'est une association
avec un bureau. Scène nationale.
Avec un bureau. Alors, c'est vrai que dans le conseil d'administration siègent tous les financeurs, régions, départements, agglo, avec plusieurs représentants, et le bureau. Je dirais que le Grand Narbonne donc, donne une subvention de fonctionnement de 900 000 euros, pour être précise, participe au transport jeune public à hauteur de 35 000 euros et donne 7 000 euros pour des frais liés aux mises à disposition des salles. Donc ça, c'est tout ce que le Grand Narbonne apporte sur le théâtre. Ce que je voudrais dire, c'est que en fait, vous savez, moi, la personne providentielle, je n'y crois jamais. Je pense que c'est parce que tout le monde s'est mis autour de la table qu'on est arrivé à assainir les finances. Mais par contre, maintenant, il reste à faire les preuves qu'une fois les finances assainies, on va pouvoir faire rayonner ce théâtre sans avoir autant de difficultés. On aura toujours quelques petites difficultés, mais voilà. Ce que je pense profondément, personnellement, c'est que nous avons mis en place un bureau qui va être efficace sur ce plan-là. Que ce soit le directeur, le président, pardon, du bureau, Monsieur Clouet, que ce soit Monsieur Chalulot, ou que ce soit Monsieur Roland, ce sont des personnes qui sont quand même très habituées et à la gestion du personnel, et au rayonnement d'un établissement, à l'éducation populaire. Donc, ce sont vraiment des personnes qui vont être à même de tenir, je dirais, la gestion du théâtre. Ouais. La directrice ayant comme mission de porter la programmation.
La programmation.
Et là, je pense que, bon, c'est vrai qu'elle veut ouvrir le théâtre à des programmations peut-être un petit peu différentes, mais pourquoi pas.
Oui,
mais
je pense, ouvrir, c'est probablement très souhaitable. En tout cas, c'est l'impression d'un certain nombre de personnes, me semble-t-il. Et la fermeture ayant peut-être causé, enfin, l'esprit de fermeture ayant peut-être causé un certain nombre de maux. Mais il reste qu'encore aujourd'hui, de par ce statut de scène nationale, les financeurs ne sont pas les décideurs. Ce qui est quand même une règle universelle.
Alors, dans le monde de la culture, quand même, les financeurs sont rarement les décideurs de la programmation.
Jusqu'à un certain point.
Mais personnellement, quand je suis vice-présidente à la culture à l'agglo, les décisions importantes sont prises. Le fait d'avoir, par exemple, de dire « je souhaite que les équipements culturels soient présents sur le territoire », voilà, ça se met en place.
Oui, là quand même, oui, vous avez
voilà.
quand même
je
voix
pense que c'est la vision qu'il
voix,
faut avoir,
voix au chapitre.
Mais après, la programmation, pour le théâtre, c'est un peu pareil. Le théâtre, on lui a demandé également qu'il y ait des spectacles hors les murs. Et la directrice s'emploie à faire rayonner le théâtre hors les murs du théâtre, sur le territoire. Je crois qu'il y a des directives que l'on donne, mais la programmation, s'il y a des directeurs artistiques, il faut reconnaître leurs compétences.
Oui, voilà. Mais encore une fois, cette notion, l'impression que certains ont eue, et ils l'ont dit clairement, c'est que de par ce statut, c'est une sorte de bulle qui vivrait un petit peu à l'écart de tout, et peut-être que ça, de temps en temps, crée ça. D'ailleurs, Michel avait fait remarquer dans cette émission, il n'y a pas très longtemps, que le statut de scène nationale serait peut-être un jour à réviser.
Oui, c'était dans le dans les instances ministérielles d'aujourd'hui, quoi, hein, qu'un groupe de travail avait mis sur la table, effectivement, la possibilité de revenir sur un label et ses contraintes qui existent depuis que Lang, en fait, l'a institué, en fait, quand il était ministre, qui apparemment, d'après les spécialistes, ne serait pas sans poser un certain nombre de problèmes.
Toujours, quand on change quelque chose, il faut voir.
Il y aurait une tendance à dire, écoutez, maintenant, les collectivités, assumez vos responsabilités, y compris vos responsabilités en choisissant les directeurs artistique, donc voilà, prenez la main.
Bon, alors, on renvoie vers les agglos, donc Maribat, on renvoie vers vous et votre vice-présidente. En tout cas, merci d'être venu faire avec nous un certain tour de la question et surtout évoquer ce grand événement culturel qui va animer la ville de Narbonne et les environs et tous les équipements pendant quelques jours, pendant tout ce week-end. Et puis, ben voilà, on n'a pas eu le temps d'évoquer un petit truc politique, politicien, mais ça sera pour une autre fois. Un dernier mot peut-être, Maribat.
Oui, je voulais vous renseigner sur un projet qui me tient à cœur. Ah. La création du Centre méditerranéen de l'improvisation et de la création, parce que on n'en parle pas, mais on avance.
La presse en avait parlé en certains termes difficiles.
Oui.
Disons-le.
Bon, nous avançons, puisque le président m'a mandaté pour aller rencontrer la région, le département et le ministère où ce projet a été évoqué. Le département a déjà financé une partie des études qui sont en cours. La région viendra en financement et ça peut bénéficier également de financements européens. Je crois que ce tiers-lieu culturel serait vraiment très intéressant sur le territoire. Et ce qui nous intéresse à nous, c'est vraiment d'avoir sur un même centre à la fois l'école d'art plastique et certaines pratiques d'improvisation musicale, mais aussi, et j'en reviens à l'aspect économique, un mini-hôtel d'entreprise culturel
consacré à ça. Ben là, il y a du pain sur la planche et nul doute que Maribat, qu'on vous retrouvera prochainement. Vous nous tiendrez au courant de l'avancement de ce projet. Merci encore une fois. Le prochain invité seront plus exactement André Bory et Lilian Serre, responsables de mouvement écologiste Rubresus et du groupe de l'association Colère. Et on parlera évidemment de Malvézil, encore de traitement des nitrates. Tu vas te régaler, Michel, tu adores ça. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.